Vous écoutez France Musique.
Bonsoir Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin c'est impossible. Le tennis c'est pas ça.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous amis du parti d'Enjouer, c'est l'heure d'Enjouer et d'en prendre votre parti. J'espère que le week-end a été bon, il n'est peut-être pas encore complètement fini, on pourrait même par la force de l'imagination penser qu'il commence. En tout cas l'idée de commencement, elle est au centre du parti d'Enjouer, mais un commencement éternel, un début qui ne serait jamais qu'un moment qui advient tout le temps, ad vitam aeternam. C'est de la vie intérieure surtout hein, des musiciens qu'on dit jeunes que nous nous entretenons comme chaque dimanche. Avec aujourd'hui une invitée qui a choisi un instrument vertical, grand, très grand. Sa vie n'est pas contre les basses, mais avec, toujours avec. Je suis ravi d'accueillir la contrebassiste Lorraine Durantel. Sans son garde du corps d'instrument, bienvenue à elle et bienvenue à vous.
Souviens-toi qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ikanamina, Chokoroba Manasa, Donisebe.
Vous ne faudrait pas confondre le mot vieillard avec un homme chenu. En Afrique, un vieillard, c'est un connaisseur. L'homme qui possède la connaissance est un vieillard. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a des vieillards de 17, 18 ans. Et il y a de jeunes de 70 ans.
Lorraine Durantel, bonsoir.
Bonsoir Edouard.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même ?
Très très bien. Alors on écoutait quelqu'un qui va revenir dans votre partie non jouée. C'est Amadou Mpateba sur la jeunesse et la vieillesse. Connaître, ça veut dire quoi pour vous ? Est-ce que vous vous sentez avec un petit bagage de connaissances aujourd'hui ? Quel âge vous avez ?
J'ai 30 ans.
30 ans.
J'ai réfléchi un peu, mais non, c'est bien ça.
On a le droit de mentir aussi sur son âge.
Non, je ne mens pas. Je ne mens pas. J'ai choisi Amadou Mpateba. Pour moi, c'est tout ce rapport à la connaissance et qui est aussi de la confiance parce que tout a trait à l'oralité et à la transmission. Et ça, je trouvais que ça se reflétait beaucoup dans nos parcours musicaux. On a tous, soit on est amené à transmettre très tôt, même par l'enseignement. On a toujours des grands, ce qu'il appelle des vieillards, qui même s'ils n'en sont pas, nous transmettent plein de choses. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer un certain nombre. Et puis vraiment, c'est cette oralité qui me fait du bien parce que maintenant, on est tellement définis, que ce soit dans le milieu musical ou complètement ailleurs, par des mots, des numéros, des choses comme ça. Et de se dire que en fait, rien n'est plus important que ce qu'on passe directement à l'autre, avec ou sans parole. C'est pour ça que le réécouter, pas forcément chaque jour, mais le réécouter de temps en temps, monsieur Mpateba, ça me fait du bien.
Merci d'être avec nous, Lorraine Durantel. Alors, on va faire connaissance. Vous êtes du genre à vous lever tôt parce qu'on écoutait ici Nico These Days. Dans vos habitudes, pour qu'on arrive à mieux vous cerner, vous vous levez tôt, vous vous levez tard ?
Je me lève tôt. Je me lève tôt si je suis obligée parce que j'ai un biberon de lait à faire entre 4 et 6.
J'imagine pas pour vous.
Pas pour moi, malheureusement. Je me lève tard si j'ai pu passer la journée que je veux, c'est-à-dire me coucher très tard. Et je me lève tôt si j'ai une idée. Qui en général me paraît excellente, qui 2 heures après s'avère être absolument absurde. Mais des fois, j'ai une idée qui me réveille à 6 heures du matin. Il faut que j'aille prendre un bain. Je vais prendre un bain. Je décante mon idée, j'écris un peu. Je vais me recoucher.
Dans le bain ?
Dans le bain.
Vous écrivez
sur
dans
les
bain.
Murs de la salle de bain.
C'est vrai ? Avec quoi ?
Un crayon papier qui est toujours à côté de la baignoire.
Et pas un tube de rouge à lèvres ?
Non, quand même pas. Ça, je réserve ça à ma petite fille. Et puis, je vais me rendormir. Et puis, 4 heures après, je m'aperçois que j'ai écrit que des inepties. Et puis, la journée commence.
Bah alors, le parti d'Anjoué commence avec vous, Laura Nurentel, et surtout cette musique d'enfance, les Marx Brothers.
My best friend ! What's your name again ?
Loophole.
Glad to know you.
It's your pleasure. Ah, this meeting brings back memories. Childhood days, lemonade, romance. My life was wrapped around a circus. Her name was Lydia. I met her at the World's Fair in 1900, marked down from 1940. Ah, Lydia. She was the most glorious creature under the sun. Thais, Dubarry, Gabo. Rolled into one. Oh,
Lydia, oh, Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. She has eyes that folks adore so, and a torso even more so. Lydia, oh, Lydia, that encyclopedia. Oh, Lydia, the queen of tattoo. On her back is the Battle of Waterloo. Beside it, the wreck of the Hesperus, too. And proudly above waves the red, white, and blue. You can learn a lot from Lydia. When a robe is unfurled, she will show you the world. If you step up and tell her where. For a dime, you can see Kankakee or Paris or Washington crossing the Delaware. So start relaxing. Up the hill comes Andrew Jackson. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia. Oh Lydia, the queen of them all. For 2 bits she will do a mazurka in jazz, with a view of Niagara that nobody has. And on a clear day you can see Alcatraz. You can learn a lot from Lydia. And see Buffalo Bill with his lasso. Just a little classic by Mendel Picasso. Here is Captain Spaulding exploring the Amazon. Here's Godiva, but with her pajamas on. Here is Grover Whalen unveiling the Trilon. Over on the west coast we have Treasure Island. Here's Nijinsky a-doing the rumba. Here's her social security number. Oh, Lydia, oh, Lydia, that encyclopedia. Oh, Lydia, the champ of them all. She once swept an admiral clear off his feet. The ships on her hips made his heart skip a beat. And now the old boy's in command of the fleet. For he went and married Lydia. I said Lydia.
He said Lydia.
They said Lydia.
We said Lydia.
La la.
Les Marx Brothers, Lydia the Tattooed Lady. Alors, Lorraine Nurentel, vous êtes contrebassiste, vous avez 30 ans. Et là, nous sommes dans un wagon de train.
Exactement. Ça, c'est toute mon enfance. C'est ce wagon de train dans le film des Marx Brothers, Un jour au cirque. Et je crois que c'est le wagon restaurant. Ils sont en train de, sûrement d'aller implanter le cirque quelque part. Et il y a ce personnage, un des brothers, Groucho, qui se met à danser et qui parle. En fait, on devrait, si on pouvait voir en même temps, ce serait incroyable parce qu'il explique cette, l'histoire de cette femme, Lydia, qui est tatouée de partout. On peut voir Nijinsky et son numéro de sécu quelque part sur elle. Et je crois même qu'à un moment donné, il entame une valse un peu endiablée avec une femme qui est 3 fois plus grande que lui. Enfin, c'est assez exceptionnel.
Bah vous, c'est ce que vous faites quotidiennement, d'entamer une valse avec un instrument qui n'est pas 3 fois plus grand que vous. Mais
quand même un peu plus grand, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai.
Et alors, une enfance, Lorraine Nurentel, un peu atypique, parce que quand on s'est rencontrés pour en parler, vous avez un grand frère qui est altiste,
ouais.
Une petite sœur qui est violoniste, un petit frère qui est contrebassiste.
C'est ça.
Et puis, un papa qui est facteur de piano, organisateur de concerts, ingénieur du son.
Un papa qui a un peu tout fait. J'ai une maman qui est professeure de lettres. Et un papa qui a fait plein de choses et qui est maintenant dirige un label de disques classiques. Et donc, quatre enfants, tous musiciens. Et on a tous été un peu élevés à la maison à partir du collège. Donc, on était tous ensemble à travailler, à faire
donc
de la musique.
Donc, plus d'école à partir de quel âge ?
Plus d'école à partir de 12 ans pour moi, jusqu'à la fin.
CNED.
CNED, le fameux CNED. Le fameux CNED qui nous a donné des cauchemars pendant bien d'années. Mais en même temps, on a bien rigolé.
Et donc, quelle ambiance il y avait à la maison ? Parce que c'est vrai que quand même, c'est des parcours assez atypiques. À 12 ans, vous êtes scolarisé S-maison, on va dire.
Oui, mais c'était la seule façon de pouvoir vraiment faire de la musique comme on en avait envie. Et puis, en même temps, de rester entre nous, le fait qu'on était quatre. On n'était pas quatre exactement en même temps, mais on était quatre à suivre un peu ce parcours. Ça changeait tout. Et puis, c'était à la fois se réfugier complètement dans notre petit monde musical, dans notre petit monde familial, et en même temps profiter à l'extrême à chaque fois qu'on sortait pour aller au conservatoire ou etc.
Et du coup, la famille, c'est important pour vous ?
La famille, c'est même assez indissociable. On travaille plus forcément ensemble. Je crois qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et que maintenant, chacun fait un peu... ces choses, chacun de son côté. Mais c'est effectivement très important. Et cette famille-là, ou celle qu'on choisit, je suis très attachée en tout cas au terme de famille et à tous les gens dont je m'entoure.
Des millions d'yeux, je le savais, avaient contemplé ce paysage florentin. Et pour moi, il était comme le premier sourire du ciel. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme. Il m'assurait que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Le monde est beau et hors de lui, point de salut. La grande vérité que patiemment il m'enseignait, c'est que l'esprit n'est rien ni le cœur même, et que la pierre chauffée par le soleil ou le cyprès que le ciel découvert a grandi limite le seul univers où avoir raison prend un sens, la nature sans homme. Et ce monde m'annihile. Il me porte jusqu'au bout, il me nie sans colère. Dans ce soir qui tombait sur la campagne florentine, je m'acheminais vers une sagesse où tout était déjà conquis, si des larmes ne m'étaient venues aux yeux, et si le gros sanglot de poésie qui m'emplissait ne m'avait fait oublier la vérité du monde. C'est sur ce balancement qu'il faudrait s'arrêter. Singulier restant, où la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir, où l'esprit trouve sa raison dans le corps. S'il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui. Et ce chant d'amour sans espoir qui naît de la contemplation peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Au sortir du tombeau, le Christ ressuscitant de Piero della Francesca n'a pas un regard d'homme. Rien d'heureux n'est peint sur son visage, mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre. Car le sage, comme l'idiot, exprime peu. Ce retour me ravit. Mais cette leçon, la dois-je à l'Italie ou l'ai-je tirée de mon cœur ? C'est là-bas sans doute qu'elle m'est apparue. Mais c'est que l'Italie, comme d'autres lieux privilégiés, m'offrait le spectacle d'une beauté où meurent quand même les hommes. Ici encore la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant ? Même si je la souhaite, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir ? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. On comprend rarement que ce n'est jamais par désespoir qu'un homme abandonne ce qui faisait sa vie. Les coups de tête et les désespoirs mènent vers d'autres vies et marquent seulement un attachement frémissant au leçon de la terre. Mais il peut arriver qu'à un certain degré de lucidité, un homme se sente le cœur fermé et sans révolte ni revendication tourne le dos à ce qu'il prenait jusqu'ici pour sa vie, je veux dire sans agitation. Si Rimbaud finit en Abyssinie sans avoir écrit une seule ligne, ce n'est pas par goût de l'aventure ni renoncement d'écrivain. C'est parce que c'est comme ça, et qu'à une certaine pointe de la conscience, on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous de ne pas comprendre selon notre vocation. On sent bien qu'il s'agit ici d'entreprendre la géographie d'un certain désert, mais ce désert singulier n'est sensible qu'à ceux capables d'y vivre sans jamais tromper leur soif. C'est alors, et alors seulement, qu'il se peuple des eaux vives du bonheur.
Thank you.
Lorraine Durand, elle est avec nous dans le Parti d'en jouer. Je suis très très ému en écoutant un peu ce qu'on appelle cela en radio, un peu Notre-Dame de la radio. C'est quand des choses se rencontrent, des éléments. Et c'est l'impression que j'ai en écoutant cette quatrième ballade opus 10 de Johannes Brahms avec Sokolov, qui rencontre ce texte très important pour vous, Noce, d'Albert Camus, et en particulier donc ce désert dont il parle, cette géographie du désert, cet hommage à l'Italie et à Florence, à la Toscane, dans ce quatrième texte, donc le désert des noces. Alors, je ne sais pas par où commencer, très franchement, Lorraine Durantel, parce que il me vient tellement d'idées pour cette rencontre, peut-être vous. Pourquoi ce texte est important ?
Noce, pour moi, depuis que j'ai découvert ce texte, vraiment par hasard, je dirais il y a 5 ans, c'est toujours une espèce de trait de lumière fulgurant, pas forcément très agréable, mais comme l'extrême chaleur qu'on se prend en pleine figure. Ça me fait toujours ça dès que j'ouvre ce livre. Et ça me ramène à quelque chose. Je fais toujours un peu un parallèle par rapport même au milieu musical, parce qu'il y a des choses auxquelles on est habitué et qui en fait sont assez difficiles à vivre. Et Camus dit aussi dans ce texte Noce précisément qu'il y a un temps pour vivre, presque le plus important. Et quand il parle, là il parle beaucoup de la nature, il ne parle pas de la nature comme quelque chose de complaisant, il parle de la nature comme un tout et que tout se dirige vers là et qu'on n'est rien avant de se fondre complètement. Enfin, c'est Noce de ce qui nous entoure, quel que soit. Là, il parle d'Alger ou de l'Italie, ça peut être un peu n'importe où. Donc, il y a ce temps pour vivre. Après, il y a un temps pour témoigner de vivre. Là, on peut faire un peu le rapprochement avec Empateba, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on est capable de formuler un peu ça, on peut le rapprocher chez nous à l'enseignement, et que seulement après, il y a éventuellement un temps pour créer, et qu'il précise bien que ce temps pour créer n'est pas très naturel. Et ça fait du bien d'entendre ça. Moi, je me réfère souvent à ce texte parce qu'on nous pousse un peu à faire tout dans l'autre sens. C'est-à-dire à rentabiliser, à prouver, à montrer. Peut-être que c'est uniquement moi qui le vis comme ça, mais on sent un petit peu cette pression constante. Et tant qu'on n'a pas, 50 disques et 1 milliard de concerts et 50 pays à son actif, on n'est pas grand-chose. Alors que ce qui se passe vraiment, c'est plutôt, c'est-à-dire ce qui se passe à la maison, devant son clavier ou devant son instrument ou n'importe quoi, ou devant son stylo, je dirais que c'est plutôt là que ça se passe. Et qu'il faut vivre pour ça, et après en témoigner, et après en produire quelque chose. Mais il faut du temps.
Et puis j'ai l'impression aussi une manière d'habiter le désert, hein, pour rebondir un peu sur ce que dit Camus, cette géographie du désert, qui se peuple des eaux vives du bonheur, à condition de toujours faire attention à sa soif, sans jamais tromper sa soif. Parce qu'en fait, c'est là que se passe, c'est là que réside la clé du bonheur.
C'est ça, et de ne pas se protéger de sa vie, mais complètement s'engouffrer dedans, et effectivement ne pas... Oui, toujours écouter cette soif-là. Moi, j'ai presque ce même rapport à Paris ou aux grandes villes qu'il peut avoir au désert. Je trouve que c'est une source inépuisable de plein de choses. Tous ces paysages industriels, tous ces cheminées, ces trains, ces ordures, ces trucs, je trouve ça impressionnant de beauté urbaine. En fait, ça me fascine. Et il y a un peu ce même rapport. C'est tellement proche de nous qu'on oublie un peu de regarder. Mmh. Et puis on passe. Et ce texte-là, à chaque fois, moi, il me ramène un petit peu ce que je trouve plus naturel.
Le sanglot de poésie ou la vérité du monde, aurait pu dire Albert Camus à propos de ce hymne Wunderschönen Monat Mai, au merveilleux mois de mai, du Dichter Liebe de Schumann avec le merveilleux Fritz Wunderlich. Alors nous sommes toujours dans cet univers de nature, hein. C'est à peu près le même éloge de la promenade que dans, je trouve, dans Désert ou dans même dans la balade de Brahms, quelque chose en filigrane qui est très cohérent. Lorraine Durantel, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes contrebassiste, et c'est un peu votre univers intérieur, votre désert au sens très positif intérieur, que nous sondons avec cela pour évoquer le fait qu'avant la contrebasse ou même en même temps il y avait le piano, jusqu'à un certain âge. Et puis qu'il y a cette rencontre avec la voix, littéralement, de Fritz Wunderlich.
C'est ça. J'ai commencé par le piano. J'ai approché la musique avec le piano, que j'ai toujours gardé. Quand j'étais adolescente, j'ai reçu cet enregistrement de la flûte enchantée. Je devais avoir, je ne sais pas, entre 11 et 13 ans. Je connaissais un peu l'opéra, pour l'avoir écouté petite. C'est souvent un enregistrement qu'on propose aux enfants. Et là, je suis tombée complètement amoureuse de cette voix et de l'enregistrement en entier. C'était Carl Böhm avec, entre autres, Wunderlich. Et je crois que je ne me suis pas lassée de cet enregistrement. Je l'ai écouté des heures et des heures. Le livret est complètement déchiré. Et je trouve que sa voix, justement, à lui, elle est très bien avec ce Mozart qui ressemble pour moi un peu à Camus. C'est-à-dire que c'est une joie de vivre. En tout cas, c'est la vie brute. Il n'y a aucune mélancolie. Même contrairement à Schumann et Brahms. C'est très réel.
Oui, quoi qu'on pourrait les entendre différemment aussi. Hein. C'est ça. Il y a peut-être le vernis quand même de l'histoire de la musique là-dessus. Mais sur le moment de la sincérité, au moment de la composition...
Il y a quelque chose qui nous paraît très proche.
Mais bien sûr.
Et lui, il a une voix en même temps qui est à la fois très proche, à la fois complètement divine. Donc c'est... Je pense que c'est un des rares chanteurs qui nous émeut dès qu'il ouvre la bouche.
Allez. Et cette malheureuse chute dans l'escalier. Oui. Alors, vous venez de Troyes, hein, Lorraine.
Troyes dans l'Aube.
vous commencez donc le piano, mais vous l'arrêtez quand le piano? Parce que vous allez quand même assez loin. Vous donnez des cours, etc.
En fait, je ne l'ai pas arrêté. Je n'en ai pas fait grand-chose d'officiel. Il a fallu choisir... Vers 15 ou 16 ans, entre contrebasse ou piano. J'étais rentrée en conservatoire en contrebasse. Et ça devenait un petit peu compliqué. Je l'ai toujours gardé dans la poche. J'ai fait quelques concerts avec les deux, contrebasse et piano. Après, je suis rentrée à l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Donc, il a fallu vraiment, vraiment faire des choix. Et maintenant, je joue beaucoup plus au piano qu'avant. Peut-être que je l'assume un peu différemment aussi. Mais... ça a toujours été très, je dirais pas complémentaire, mais assez indispensable et évident d'avoir les deux.
Amadou Ampateba, le croyant.
Je ne suis pas bigot. Je suis croyant, mais je ne suis pas bigot. Je suis croyant, je ne suis pas intolérant. Je ne mets pas Dieu dans un cadre en disant en dehors de là, il n'y a pas de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu? C'est l'embarras des intelligences humaines. Si vous dites que Dieu existe, vous combattez pour l'existence de Dieu, vous êtes convaincu, vous voulez convaincre les autres. Un type qui n'y croit pas vous dit, donnez-moi une preuve de l'existence de Dieu. Vous ne pouvez pas, matériellement parlant, puisque lui, il est matérialiste, vous ne pouvez pas matériellement lui donner de quoi le satisfaire. C'est votre conviction. Donc votre conviction est interne, elle n'est pas extérieure, elle n'est pas visible et palpable.
Oh.
Vous qui savez ce qu'est l'amour, mais dites-moi donc si ce que je ressens ressemble à de l'amour. C'est l'air de Chérubin, bien sûr, dans les Noces de Figaro de Mozart, avec la version de Suzanne Dancaux, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, Erich Kleiber. Alors, Reine Durantel, ça veut dire beaucoup de choses aussi par rapport à ce qu'on a entendu avant, c'est-à-dire le grand Amadou Ampateba sur la croyance. Est-ce que vous vous sentez Chérubin parfois ? C'est-à-dire étant dans une émotion indescriptible et dubitative, pleine de doutes.
Pleine de doutes, je ne suis pas sûre. Je crois qu'au contraire, quand je suis dans cet état-là, il n'y a aucun doute et c'est très bon. Et que le doute est tout ce qui amène à cet état-là. Moi, c'est un peu mon rêve, cet état de rêve permanent. Et puis par la musique, c'est un lien assez direct qui rend des fois le réveil difficile. C'est-à-dire que aussi bien la sortie de concert que de travailler pour soi, c'est-à-dire faire ses doigts pour après maîtriser suffisamment comme le passage qui va amener à ce moment sur scène qui ne peut arriver que sur scène. Oui, je trouve ça pas facile. Et donc du coup, je pense que les doutes... Peut-être que je ressemble plus à Chérubin dans ces moments-là. Et puis les moments sur scène où on se sent bien et on est à la fois en plein rêve et à la fois en pleine réalité... Oui, il n'y a pas grand-chose de meilleur.
Et vous me disiez justement, le Nirvana, c'est faire des pids dans Mozart. C'est ce qui vous a
arrivé. Exactement.
Festival Juventus, avec des gens qu'on connaît bien ici, qui sont venus dans le parti d'en jouer, Hermine Oriot, Marc Bouchkoff. Et le fait que, par rapport aussi à votre trajectoire pianistique, vous me disiez, le piano, on a toutes les lignes dans la main. Voilà. Mais alors, avec la contrebasse, on est immergé beaucoup plus dans le son. C'est-à-dire cette sensation physique du plaisir... On l'a beaucoup plus.
C'est ça. Puis on dépend directement des autres. Donc c'est à double tranchant aussi. Mmh. Et dans ce cas présent, Juventus, ça aussi, c'est la famille. Et puis Georges Garat, Monsieur Georges, qui est un peu un ange gardien pour moi. Et donc ce festival, y aller rencontrer ces gens, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et puis je planifie bien d'y aller les 20 prochaines années. ça c'est sûr.
Pour refaire des pizzes et puis atteindre le Nirvana dans cette ère de Chérubin, par exemple.
Au moment de cette ère de Chérubin, avec plein de gens, dont Marc, effectivement, et Hermine que j'ai rencontré là-bas, je me suis vraiment dit tout ça pour ça, et ça en valait bien la peine.
Alors, la croyance, parce qu'on entendait juste avant Amadou Ampateba qui parlait du conflit un peu des matérialistes et des spiritualistes, de l'intérieur et de sa traduction à l'extérieur. On pourrait dire que finalement la musique c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une croyance, on essaye d'extérioriser quelque chose d'intérieur, et que quand on cherche justement à convaincre, c'est là où on se plante et qu'on rend la musique inexpressive. Et qu'on n'atteint pas justement la transcendance dont vous parlez.
C'est vrai, puis c'est difficile de garder cette subjectivité au sens formulation pas forcément obligée. Et en gardant les yeux ouverts, c'est ce que je trouve le plus compliqué. C'est à la fois plonger ceux qui nous écoutent dans quelque chose, pas de l'ordre de l'oubli, mais de l'ordre de la magie, je dirais un petit peu, même pas du rêve, parce que pareil, c'est quelque chose de trop déconnecté de la réalité, mais quelque chose de plutôt magique, sans nous-mêmes nous perdre. et en regardant vraiment les yeux ouverts. Et c'est ce qui est à la fois grisant chez nous musiciens, à la fois pas facile à combiner avec le reste de la journée.
Alors, les yeux ouverts. Alors, si vous permettez, vu que nous, là, nous sommes auditeurs de ce que vous nous dites, on a le droit de les fermer les yeux. Mais surtout, il y a un devoir de fermer les yeux en écoutant cela. Musique de la liaison entre le bas et le haut, entre le ciel et la terre. La deuxième leçon de ténèbres de Couperin avec Alfred Deller, inimitable bien sûr. Partie d'en jouer avec vous, Lorraine Durantel. Et c'est un lien aussi entre vous, un lien presque, je dirais, intra-utérin, avec vous et votre fille, au moment où vous êtes enceinte.
C'est ça, j'écoutais. Qu'est-ce que j'aime cette voix. Ouais. Et c'est quelqu'un que j'écoute toujours beaucoup. C'est quelqu'un qu'elle reconnaît, du coup, aussi... Maintenant, j'ai écouté et joué beaucoup de Stravinsky aussi, pendant que je l'entendais. Et ces deux compositeurs, cette voix et puis ce compositeur, très coloré, qu'elle reconnaît presque immédiatement.
Alors vous parliez, je retiens quand même, les yeux ouverts. Je trouve que c'est une très très belle image pour parler de la vigilance du musicien dans le moment même où il joue de la musique devant un auditoire. Est-ce que parfois, vous avez cette impression qu'il faut être vigilant aussi sur la flamme à entretenir de la passion musicale qui risquerait de s'éteindre par justement des éléments extérieurs qui, à proprement parler, ne composent pas la passion, votre passion intérieure?
Pour moi, l'élément extérieur le plus difficile, c'est la peur, je dirais même pas le trac, c'est la peur du moment M, au moment où il faut délivrer quelque chose de très précis. Et c'est pas évident parce qu'à la fois, on est forcément plein d'artifices, comme n'importe quel métier du spectacle, qui sont plein de ficelles à tirer et plein de travail également, qui font qu'à un moment précis, on est capable de délivrer ce qu'on a à délivrer. Et en même temps, c'est parfois aussi l'antithèse de ce qu'on voudrait donner, c'est-à-dire quelque chose de plus profond, de plus pur. Et il y a des moments où on est juste, on n'a pas grand-chose dedans. Et il faut quand même prétendre à ça. C'est ce que je trouve le plus difficile. C'est si on pouvait... toujours rester dans cet état d'esprit. Bon, je pense qu'on ne vivrait pas très longtemps, mais on aurait l'assurance de ne pas subir cette peur. Mmh. Et Oui, en même temps, pour moi, c'est une des choses les plus difficiles à gérer dans le travail.
Alors, il y a une manière aussi peut-être de contourner ça, c'est de toujours entretenir la flamme, c'est de faire des choix aussi de vie, des choix professionnels. Et est-ce que ça coïncide avec ce que vous avez fait, vous, autour de 2005-2006, puisque vous étiez contrebasse solo à l'Orchestre du Capitole de Toulouse?
C'est ça.
Et puis, vous voyez un appel, une annonce pour aller auditionner en Angleterre, à Sheffield ou à Londres.
À Sheffield,
avec le quatuor Lindsay. Mm-hmm. Qui, donc à l'époque, avait, bon, ça datait un petit peu, mais avait monté un ensemble à géométrie variable de musique de chambre.
C'est ça. Donc je suis rentrée dans cet Orchestre National du Capitole de Toulouse, un orchestre flamboyant. J'y ai vécu pas énormément de temps, mais un an et demi, deux ans, complètement incroyable. Avoir un répertoire fou, à découvrir toute la musique française qu'ils connaissent par cœur. C'était une vie assez enivrante, une vie de fête, de musique, complètement dévouée à tout ça. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui était beaucoup plus proche de ce côté musique de chambre, c'est-à-dire ce côté artisan aussi, mine de rien. C'est-à-dire que sa propre voix compte. Et ce n'est pas pour une question d'ego ou d'envie solistique, c'est juste que vraiment, on apporte, surtout en tant que contrebassiste, on apporte sa pierre à l'édifice harmonique. Et vraiment, l'orchestre, ça reste une masse,
oui, mais
et
alors,
c'est pas simple.
Oui, mais on peut aussi se noyer. Enfin, c'est les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire on se noie dans le son, mais on se noie aussi peut-être parfois littéralement.
Complètement. Et c'est un peu ce que je sentais, moi, qu'il était temps de finir ça. C'est une décision qui a été assez difficile et j'ai préféré trancher parce que c'est vraiment un orchestre où moi, j'aurais adoré passer beaucoup plus de temps. Les gens, ils sont incroyables L'expérience a vécu avait à peine commencé quelque part. Mais partir pour l'Angleterre, faire de la musique de chambre et puis rentrer dans un projet aussi fou que celui qui est toujours proposé, puisque j'en fais toujours partie. Bon, j'ai hésité un petit peu, mais pas suffisamment pour ne pas le faire.
Aujourd'hui à Londres, on va parler de ce projet, mm-hmm. Lorraine, en écoutant, juste après avoir écouté Giovanni Bottesini. On parlera aussi de ce personnage contrebassiste ou en couleur. Et c'est un concerto, et je dirais avec toute la familiale.
C'est ça,
puisqu'il y a, il y a le frère et la sœur, non ?
Les deux frères et la sœur sont
le
là.
Le frère et la sœur.
Exactement, et le papa est aux commandes. Thank you.
Le final du concerto numéro 2 en si mineur de Giovanni Bottesini avec vous, Lorraine Durantel, et puis à peu près toute la famille avec le papa justement aussi à la prise de son. Alors, avant de parler justement de votre vie aujourd'hui à Sheffield et à revenir, parce que c'est quand même un projet assez fou qui pourrait inspirer justement quelques initiatives ici aussi en France, quoique le paysage est bien différent. Mais alors Giovanni Bottesini, vous ouvrez le livret, vous avez enregistré deux disques, ouais. Ça c'est le deuxième volume, « Aller au-delà des possibles ». C'est ce que vous dites à propos de la trajectoire de Bottesini, mais on pourrait presque aussi l'appliquer à ce que vous faites vous aujourd'hui ou pas
Au-delà des possibles, je ne sais pas, en tout cas au-delà de ce qui est attendu, sûrement. pas du tout dans un sens de provocation, je ne pense pas, ni pour lui, mais c'est juste de faire ce qu'on aime. On se rend compte qu'il n'y a pas un seul moule qui le propose, donc il faut fabriquer son propre moule et ça prend un peu de temps, puis il faut forcer un petit peu quelques portes. Et lui, ce qui me faisait un peu rire, c'est que c'était, je crois, un grand chef d'orchestre qui a dirigé toutes les premières et autres des opéras de Verdi. Et quand même, à l'entracte, il ne pouvait pas s'empêcher de prendre sa petite contrebasse, de monter sur le devant de la scène, de jouer une paraphrase. J'ai enregistré certaines de ses paraphrases sur il y a des opéras de Bellini, des opéras de Verdi, etc. Et puis après, il redescendait en fosse et il continuait. Je crois qu'il se faisait plaisir, en fait.
Tout simplement.
Tout simplement. Et puis, il nous a quand même laissé un certain nombre de pièces pour contrebasse qui sont pas si mal.
Oui, et puis qui sont assez, assez costauds.
Oui.
En termes de virtuosité, c'est pas mal. Transcendance peut-être aussi de l'instrument. On parlait tout à l'heure de paysage, au travers de la balade de Brahms, de la contemplation, de l'action la plus efficace selon Albert Camus dans Nos, Désert. Quels sont les paysages qui vous ont marqué dans votre vie?
Bonne question. Les paysages qui m'ont marqué. J'ai réfléchi un tout petit peu, quand même. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est une station de train en Angleterre, sur le chemin entre Londres et Sheffield, qui s'appelle East Midlands. Et peut-être qu'il y a des Anglais ou d'autres personnes qui connaissent, ils vont rigoler parce qu'ils vont sûrement trouver ça affreux. Il n'y a absolument rien. Il y a deux énormes cheminées nucléaires. Et il n'y a rien d'autre. Et c'est un paysage qui me frappe complètement. Et puis, une heure après, on approche de Sheffield et on voit ces paysages du Peak District, qui est la plus belle campagne d'Europe. Et il n'y a pas d'explication, de message ou de métaphore derrière. Ce sont des paysages qui me frappent énormément. Et j'habite à Paris, j'habite à Ivry-sur-Seine. Et il y a cette image de ce pont, avec toutes ces rails, ces immenses cheminées, et ces industriels également. Ça, c'est des paysages qui me plaisent. J'y trouve jamais de fin.
Bah du coup, alors parlez-nous de votre vie à Sheffield, parce que vous intégrez donc cet ensemble de musique de chambre au sein de la compagnie Music in the Round, donc c'est l'ensemble 360, une extension du quatuor Lindsay. Mm-hmm. Vous y êtes depuis 2006.
C'est ça.
Et alors avec un projet un peu fou, donc en résidence permanente au Crucible Theatre de Sheffield, vous jouez au centre d'une scène avec des gens qui vous ont un peu élisabétain, théâtre, voilà. Qu'est-ce que ça change? Racontez-nous un petit peu ce qui s'y passe et surtout la relation peut-être avec un paysage pour le coup un peu plus social.
Oui, complètement. C'est ce que j'aime bien à Sheffield. J'ai rejoint ce groupe. Le groupe avait un an d'existence. Le processus des auditions a duré un peu longtemps. C'était à l'époque le quatuor Elias qui avait pris la succession du quatuor Lindsay et qui a continué lui-même à auditionner. Puis après, le groupe a encore changé beaucoup de figures. Maintenant, nous sommes complètement au complet. Il y a un côté proche des gens là-bas, et le rapport avec le public marche vraiment dans les deux sens. Il nous donne énormément et nous, on reste vraiment présent pour eux. Sheffield, c'est la maison. Ça, c'est une ville très particulière. Bon, le nord de l'Angleterre, ça n'a rien à voir avec le sud. On peut le rapprocher au nord de la France. Très ouvrier, sinistré par le chômage, avec un regain universitaire aussi énormément. Sheffield est une ville très, très étudiante. C'est, moi, une ville où j'adore être. Et cet ensemble qui propose des programmes un peu fou. On enregistre ou on part en tournée avec des programmes assez énormes. Il y a eu, juste avant que je n'arrive, il y a eu ces 24 heures Mozart où l'ensemble a joué pendant 24 heures.
À Sheffield.
Du Mozart.
Sans s'arrêter.
Et puis les gens venaient avec leur sac de couchage et leur thermos et puis résistaient. On a ce festival en mai qui était instauré par les Lindsay de 10 jours à entre 2 et 3 concerts par jour. On a presque le même public pendant tout le temps. C'est des choses un peu hors normes et extrêmement humaines. Moi, ça a changé mon rapport, justement, surtout en quittant un peu la France, à la peur, justement. Cette peur de devoir toujours être très bon, de te voir toujours donner au moment. Là-bas, c'est différent, c'est très humain, c'est beaucoup plus sur le moment. et on s'y sent bien. On arrive là-bas, pas forcément endimanché, on rentre sur scène, on parle avec le public, on attend de bien se sentir, on commence à jouer. Parfois, on a des fous rires sur scène. Ou pas. Et c'est, pour moi, c'est l'extrême du professionnalisme, en fait. C'est-à-dire qu'on on se met complètement à l'aise. Peut-être que les comédiens ou les danseurs ont plus une façon de travailler comme ça. Nous, dans la musique classique, j'ai l'impression qu'on est plus au garde-à-vous, un petit peu. Et là-bas, je me sens tellement débarrassée de tout ça que je crois que c'est un endroit que je n'ai pas du tout envie de quitter.
Thank you.
Le premier mouvement du quintet pour deux altos de Mozart par le quatuor Albanberg avec Marcus Wolf. Votre partie d'en jouer, Lorraine Durantel, qui arrive presque à sa fin, mais sans évoquer la personnalité de Valentin Erben, qui est le violoncelliste, bien sûr, mythique du quatuor Albanberg, que vous avez rencontré il y a 2 ans. Et puis vous me disiez cette œuvre, une œuvre fétiche, mais proprement fétiche, c'est-à-dire qui donne lieu à du fétichisme de votre part.
Presque. c'est une œuvre que j'ai jouée moi-même. Je joue souvent une contrebasse accordée, une carte au-dessus, ce qui me permet de m'infiltrer un petit peu dans des territoires normalement interdits. Et j'avais joué cette œuvre-là dans une configuration complètement farfelue avec le oboïste Jean-Pierre Arnaud, la flûtiste Marine Pérez, quelques membres du Quatuor Bella. Et on avait joué ça, c'était un rêve. C'était dans une petite église perdue, je ne sais plus dans quel trou. Mais c'était assez fantastique. Et j'adore cette œuvre. Et cette version-là, moi je l'avais découverte en une version live qu'on n'a pas pu forcément avoir avec l'altiste Krzysztof Rogelski. C'est une version incroyable. C'est quelque chose que j'écoute très régulièrement, sans trop savoir pourquoi. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et Valentin, c'est quelqu'un à qui je dois aussi beaucoup. Valentin et sa femme, Christine Vito-Herben, qui ont créé un festival en Champagne, les Musicales d'Orient, où je vais depuis quelques années, et encore une famille.
Encore une famille.
Encore une famille.
Mais alors, je ne veux pas insister, mais si vous me dites que le piano, on est tout seul, quand bien même on aurait toutes les lignes dans la main, mais qu'avec la contrebasse, on n'est jamais seul, c'est tentant de vous demander, est-ce que vous n'avez pas choisi la contrebasse pour justement ne pas être seul ?
Ah, il y a peut-être quelque chose comme ça. En même temps, il y a cet aspect de la contrebasse, justement, accordé un peu différemment, que j'adore, parce que là, c'est pour être seul. Et seul, pas comme un repli, mais juste un accès à différentes œuvres, en particulier de la musique baroque, Maramarais, Bach. Et ça, c'est un rapport aussi à la croyance, mais à cette époque où tout est complètement dévoué au culte sans concession, ce qui nous ramène un peu à Empateba. Mais j'aime bien ce côté, pas prière, mais en tout cas recueillement qu'on peut avoir avec ce répertoire-là. Et le reste, non, effectivement, c'est ce côté un petit peu machiavélique, presque, de diriger sans en avoir l'air, parce qu'on est tout en bas et qu'en fait, on peut tout faire.
Et oui, Manu Empateba, c'est l'embarras des intelligences humaines. C'est ce qu'il disait à propos des croyances. Je trouve que c'est vraiment formidable comme formulation. Quoi.
Ça marche pour la musique de chambre aussi.
Est-ce que ça ne marcherait pas pour la dernière musique qu'on va écouter, qui a besoin d'une petite explication ? Est-ce que les bêtises, ce n'est pas l'embarras des adultes ?
Ça, c'est sûr. Puis surtout dans cette chanson, c'est vraiment ça. C'est la chanson préférée de ma fille.
Donc, petit clin d'œil.
Petit clin d'œil.
Un grand merci à vous, Lorraine Durantel.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
J'ai tout mangé, le chocolat. J'ai tout démonté tes tableaux, j'ai tout découpé tes rideaux, tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que j'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. J'ai tout brûlé le beau tapis, j'ai tout scié les pieds du lit, tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter.
Et voilà les bêtises de Sabine Paturel.
Après alors, Mozart en somme mineur.
Mais très très belle chanson, moi j'aime beaucoup le texte.
C'est parfait.
Et vous me disiez, ça se fait référence à une expérience orchestrale au Capitole de Toulouse.
Oui, avec un motif qui... Avec un motif ta-la-ta-ta-la-ta-ta-ta, qu'on n'arrivait pas forcément à placer. Et puis mes collègues Gérard, Michel et Daniel me disaient, j'ai tout mangé, le chocolat. Et j'ai tout découvert seulement des années après, d'où ça venait.
Bon, merci beaucoup, Lorraine Durantel.
Merci à vous.
Merci à toute l'équipe du Parti d'Anjouer, à commencer par Eric Lancien qui a réalisé cette émission. Jean-René Bonissant m'a aidé à la préparer. Surtout, ne changez rien.
Il m'a amené un café.
Il vous a amené un café. Comme ça, la nuit va être longue. Hein. On disait justement en début de Parti d'Anjouer que le week-end commence.
Exactement.
Il commence à partir de 22h. Donc merci à tout le monde et merci à Pierre Mine qui a fait la prise de son et le mixage de ce Parti d'Anjouer. Bientôt 22h sur France Musique, l'heure de retrouver Jérémy Rousseau comme si vous y étiez. Bonsoir Jérémy.